VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes le monde. Aujourd'hui, édition du lundi 11 janvier 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Au Niger, la Cour d'appel doit rendre aujourd'hui son délibéré sur la requête de mise en liberté provisoire de Hama Amadou.
Au Mali, la piste djihadiste se précise dans l'enquête sur l'enlèvement de la Suissesse Béatrice Stokely à Tombouctou.
Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU se prononce sur la situation en République centrafricaine dans une interview à VOA Afrique.
L'Iran a confirmé à l'émissaire spécial de l'ONU sa participation au prochain pourparlers de paix de Genève sur la Syrie, malgré la crise actuelle dans ses relations avec l'Arabie Saoudite.
Barack Obama prononcera demain soir, devant les deux chambres réunies du Congrès, son dernier discours sur l'état de l'Union.
Et ne manquez pas la Minute Écho ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Au Niger, c'est ce lundi que la Cour d'appel de Niamey va rendre son délibéré sur la requête de mise en liberté provisoire introduite par le conseil de Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle du 21 février prochain. La Cour constitutionnelle a validé 15 candidatures, dont celle du président sortant Issoufou Mahamadou. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Sur les 16 dossiers qu'elle a reçus, la Cour constitutionnelle a rejeté un seul pour vice de forme. Il s'agit de celle d'un candidat d'une petite formation politique. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, en prison dans le cadre de l'affaire de trafic de bébés, l'a échappé de justesse avec 3 autres candidats, puisque leur dossier avait été envoyé à la juridiction constitutionnelle avec un rapport d'enquête de moralité défavorable. La Cour a estimé que le rapport n'était pas précis, puisque le doute sur la moralité a été mis au conditionnel par les enquêteurs. Hama Amadou franchit donc cette étape. Il lui reste celle de ce lundi 11 janvier avec le délibéré attendu de la Cour d'appel de Niamey sur la requête de mise en liberté provisoire introduite par son conseil d'avocats. Une décision de la Cour d'appel de Niamey qui sera rendue peut-être justement en l'absence de ses avocats puisque le barreau de Niamey a demandé à tous ses militants de déposer ce lundi justement leur robe en protestation contre les arrestations extrajudiciaires de citoyens, notamment militants de l'opposition, par les services de la Direction générale de la sécurité d'État et qui sont interdits de visite par leur avocat. Une marche de protestation contre justement ces arrestations projetées par l'opposition ce dimanche a aussi été interdite. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Tchad, le Parti démocratique et socialiste pour l'alternance a tenu hier son congrès extraordinaire à N'Djamena. C'était pour préparer l'élection présidentielle de mi-avril 2016. Le point avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Le premier candidat à l'élection présidentielle de mi-avril 2016 au Tchad est déjà connu. Il s'agit de Malom Yoboïde Ndjeraki du Parti démocratique et socialiste pour l'alternance qui vient d'être investi par ses militants, composé en majorité de jeunes.
Nous, militants et militantes du PDSA, adoptant la résolution dont la ternaire suit. Messieurs Malum Yoboïde Ndjeraki, président national du Parti démocratique et socialiste pour l'alternance PDSA, est investi candidat du parti pour les élections présidentielles de la République du Tchad d'avril 2016.
Ancien parti allié au mouvement patriotique du salut MPS depuis 4 ans, ces militants viennent de rompre l'alliance avec le parti au pouvoir pour mauvaise foi sur le non-respect des clauses de la dite alliance et entendent conquérir le pouvoir pour une alternance démocratique apaisée. Aussitôt investi, est sûr de ses muscles pour affronter son ancien allié et autre ténor de l'opposition.
Je prends acte de votre choix et m'engage à ne point trahir la confiance que vous avez placée à moi. Votre conviction pour la cause commune que nous défendons et voir la détermination de toutes et de chacun, notre victoire aux futures consultations électorales est certaine.
En 6 ans d'existence sur l'échiquier politique, Malum Yoboïde Ndjeraki a déclaré que sa formation politique constitue la 8e force en termes de représentativité et de poids au Tchad. Car, précise-t-il, son parti dispose de 2 députés à l'Assemblée nationale et 7 conseillers dans la commune de Mungu, région du Guéra, d'où il est originaire. André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Au Mali, la piste djihadiste se précisait dimanche dans l'enquête sur l'enlèvement d'une Suissesse à Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali, où les autorités reconnaissaient n'avoir aucune information sur son sort. Par ailleurs, le procureur du pôle judiciaire spécialisé, Boubacar Sidiki Samake, a révélé qu'une demande de libération de deux djihadistes avait été retrouvée sur les corps des deux assaillants dans l'attaque de l'hôtel Radisson de Bamako le 20 novembre. Nous y reviendrons dans la seconde partie de ce programme.
Au Nigeria, l'état pétrolier de Bayelsa, fief de Goodluck Jonathan, dans le sud du pays, restera aux mains du parti de l'ancien président après la réélection ce week-end de son gouverneur, Seriake Dixon. Selon ce dernier, 14 personnes ont péri dans des violences liées au scrutin, mais la police dément un tel bilan qui n'a pas pu être vérifié pour l'instant de façon indépendante.
Les rebelles du mouvement de libération du Soudan, SLM, ont affirmé que 4 manifestants avaient été tués dimanche au Darfour par les forces de sécurité. Mais les autorités locales ont nié qu'il y ait eu des victimes. Un groupe de manifestants s'était rassemblé hier devant le secrétariat du gouvernement local à Ghanéima, capitale de l'État du Darfour occidental dans l'ouest du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Égypte, le nouveau Parlement a tenu hier sa session inaugurale. C'est une chambre entièrement acquise à la cause du président Abdel Fattah al-Sissi. Les députés égyptiens ont prêté serment à tour de rôle hier. Ils ont par la suite élu Ali Abdelal, un juriste, président de la chambre. Jean-Roger Bion.
Aux législatives de 2015, la coalition dite pour l'amour de l'Égypte a remporté les 120 sièges destinés aux partis politiques. Cette formation composée d'anciens partisans de Hosni Moubarak affiche maintenant un soutien inconditionnel au président Abdel Fattah al-Sissi. Le reste des élus au scrutin uninominal ont dans leur quasi-totalité fait allégeance à M. Sissi. Le taux de participation dépassait à peine 28% et il n'y avait presque pas d'opposants. L'Égypte était sans parlement depuis juin 2012 car l'Assemblée, dominée par les frères musulmans, a été dissoute par la Cour constitutionnelle. M. Sissi, ex-chef de l'armée, a destitué en juillet 2013 son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi. Il a été élu président sans surprise en mai 2014 et règne d'une main de fer. Le pays arabe le plus peuplé est aussi le théâtre d'une insurrection djihadiste. La branche égyptienne du groupe État islamique multiplie des attentats meurtriers contre la police et l'armée.
L'émissaire spécial des Nations Unies en Syrie a rencontré hier à Téhéran Mohamed Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères. Stéphane de Mistura a qualifié d'utile ces entretiens qui sont en prélude au pourparlers de paix prévu ce mois-ci à Genève. Selon lui, les Iraniens ont réaffirmé leur intention d'y participer malgré les tensions diplomatiques actuelles entre leur pays et l'Arabie saoudite.
Un missile a touché dimanche un centre médical utilisé par Médecins sans frontières au Yémen, faisant 4 morts et 10 blessés dans le nord du pays. Selon MSF, le centre se trouvait dans une zone contrôlée par les rebelles chiites houthis en guerre contre les forces gouvernementales soutenues par une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. Le bilan pourrait s'alourdir avec la possibilité de personnes prises dans les décombres de plusieurs bâtiments qui se sont effondrés, laisse entendre l'ONG. MSF dit fournir régulièrement aux belligérants les positions GPS de ces installations.
Barack Obama prononcera demain soir son dernier discours sur l'état de l'Union. Ce sera comme d'habitude au Capitole devant les deux chambres réunies du Congrès américain Idriss Fall.
Barack Obama travaille sur ce discours depuis des semaines. Les bons chiffres de l'emploi avec un chômage à 5% au plus bas depuis 7 ans, le rapprochement avec Cuba, l'accord sur le nucléaire iranien, le changement climatique et les efforts contre le groupe État islamique seront des moments forts de ce rendez-vous devant les deux chambres réunies du Congrès américain. M. Obama plaidera aussi pour renforcer les contrôles sur les acheteurs d'armes à feu. La mesure qu'il a prise il y a quelques jours a provoqué la colère des républicains. Dans la loge de la première dame Michelle Obama, un siège restera vide en hommage à ceux qui sont tombés sous des balles assassines aux États-Unis. À l'exception d'une allocution en juillet pendant la convention démocrate à Philadelphie, ce pourrait être le dernier grand rendez-vous pour une grande audience en prime time. Et chaque formule de son discours sera disséquée en fin de séance, car l'élection de novembre pour désigner son successeur à la Maison-Blanche est déjà présente dans tous les esprits.
Toujours aux États-Unis, hier soir à Los Angeles, et en spectacle, Anne.
Oui, le film The Revenant, dans lequel Leonardo DiCaprio interprète un trappeur de légende, a été couronné lors de la cérémonie des Golden Globes. Meilleur drame, meilleur acteur et meilleur réalisateur pour le Mexicain Alejandro Iñárritu. La star de films d'action Sylvester Stallone a remporté dimanche son premier Golden Globe pour son second rôle dans Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Et l'acteur Denzel Washington a reçu, lui, le prix Cecil B. 2000, qui salue l'ensemble de sa carrière cinématographique.
La Minute Écho, Nathalie Barge.
La Belgique a décidé de reprendre sa coopération avec le Burkina Faso, rapporte l'APA. Cette coopération sera axée sur l'accès à l'eau potable, la démographie, la santé reproductive, les violences faites aux femmes, la sécurité alimentaire et l'agriculture. Au plan commercial, des missions exploratoires entre les deux pays sont prévues cette année. La Banque africaine de développement a approuvé un financement de 15,7 milliards de francs CFA au Cameroun visant à augmenter la production de la centrale de gaz à Kribi, rapporte Financial Afrique. Au total, 65 milliards de francs CFA sont nécessaires à la conduite des travaux d'extension. Divers accords de financement avec la SFI, la filiale de la Banque mondiale, devraient être bouclés au premier trimestre 2016. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, exhorte les pays de la zone CEMAC à accroître leurs échanges commerciaux. Selon Madame Lagarde, les échanges commerciaux sont trop faibles et ne contribuent pas suffisamment à la croissance de l'espace communautaire. Au cours d'une réunion vendredi avec les ministres des Finances des six pays membres, elle a notamment invité ces pays à harmoniser les impôts et à assurer l'entretien des infrastructures, a rapporté l'ADIAC. Madame Lagarde a noté que malgré certains progrès, les échanges commerciaux entre ces États d'Afrique centrale demeurent modestes, à environ 3% du commerce total de la sous-région.
Et maintenant, les sports avec Élisée Oumpatine. Bonjour.
Bonjour Idrissa.
Du volleyball pour commencer avec le tournoi de qualification olympique qui se déroule à Brazzaville. On connaît désormais l'affiche des demi-finales.
Égypte, Cameroun et Algérie, Tunisie. C'est le programme du dernier carré de la compétition. Ces deux rencontres auront lieu ce lundi. L'Algérie, qui termine sur un sans faute cette phase de poule, se positionne désormais comme un prétendant pour le titre final. Pour rappel, le vainqueur de ce tournoi se qualifie directement pour les Jeux Olympique de Rio. Le deuxième et le troisième devront passer par un ultime tournoi de qualification.
On passe au football, Élisée, avec le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans.
À Douala, le Cameroun a battu l'Éthiopie. Le score 2-1 en match aller de 16 éliminatoires, donc doublé d'Albin Choubi pour les Camerounaises. Le match retour aura lieu dans deux semaines.
Le championnat d'Afrique des Nations, début de la compétition samedi prochain au Rwanda.
Effectivement, et 16 équipes au départ pour cette quatrième édition, notamment la République démocratique du Congo qui continue sa préparation au Rwanda depuis jeudi dernier. Les Léopards locaux coachés par Florent Ibenge ont livré et perdu leur match amical contre les Amavubi rwandais, score 1-0. Autre sélection en préparation et qualifiée pour ce tournoi, la Côte d'Ivoire et la Guinée, 1-2 entre les deux équipes, c'était du côté de Johannesburg en Afrique du Sud.
Et puis un mot sur le championnat d'Espagne avec un début réussi pour Zinedine Zidane.
Oui, ses débuts comme entraîneur scruté par le monde du football et il ne s'est pas loupé. Son équipe, le Real Madrid, l'emporte 5-0 face au Deportivo La Corogne avec un doublé de Karim Benzema et un doublé de Gareth Bale. Au classement, le club madrilène reste à la troisième place à 2 unités de Barcelone, vainqueur 4-0 de Grenade avec un triplé de Léo Messi. Et puis, pour terminer avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit en NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Et les Clippers 114, New Orleans 111, Dallas 93, Minnesota 87, Cleveland 95, Philadelphia 85, Memphis 101, Boston 98, Houston 107, Indiana 103, New York Knicks 100, Milwaukee 88, Denver 95, Charlotte 92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, suite à l'enlèvement de la Suissesse Béatrice Stokely, une enquête a été ouverte par le procureur du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme. Boubacar Sidiki Samake s'est aussi prononcé sur la suite de l'enquête de l'attaque de l'hôtel Radisson Blu. Selon le juge, les assaillants tués dans l'attaque contre l'hôtel Radisson avaient revendiqué la libération de deux terroristes d'Al-Mourabitoun. Plus de précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Béatrice, c'est le nom de la Suissesse enlevée le jeudi 7 janvier 2016. Suite à cet enlèvement, le pôle judiciaire spécialisé a ouvert une enquête afin de situer les responsabilités. Boubacar Sidiki Samake, procureur du pôle judiciaire spécialisé.
La prévôté de Tombouctou est en train de faire des investigations. Nous avons déjà ouvert au parquet une enquête sur les faits d'enlèvement de personnes, en attendant que tous ces éléments soient assez précis et que nous puissions confirmer qu'il s'agit d'un enlèvement de personnes ou d'une prise d'otage en relation avec une entreprise terroriste. Nous allons rechercher tout ce qui est possible pour élucider cette affaire-là et rechercher également les auteurs. On n'a pas de nouvelles depuis l'enlèvement. Une religieuse sans défense qui est à Tombouctou, qui est également une ville religieuse, on ne peut pas comprendre qu'elle puisse être enlevée.
Les élus locaux de Tombouctou pensent que Béatrice a été imprudente, étant donné qu'elle est retournée s'installer dans les quartiers d'Abaradjou, une zone non sécurisée dans la ville de Tombouctou. Pour ce qui est de l'attaque à l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015, sur la base des objets saisis sur les deux assaillants, plusieurs informations ont été trouvées.
On a retrouvé sur eux un bout de papier avec des inscriptions en arabe qu'on a pu traduire. Ces inscriptions demandaient la libération de deux personnes, des prisonniers, El Hadi Oudou Seyman, About El Hassan Al-Moujahir, qui sont respectivement détenus en Mauritanie et au Niger, et qui seraient des membres du groupe terroriste Al-Mourabitoun. Ces éléments laissent présumer que Al-Mourabitoun aurait été à l'origine de cet attentat.
Mieux, les deux assaillants avaient sur eux chacun la somme de 200 000 francs CFA. Boubacar Sidiki Samake, procureur du pôle judiciaire spécialisé.
Nous sommes en train, avec l'assistant de la CENTIF, la Cellule nationale de traitement des informations financières, de chercher à retracer l'origine de ces billets. Pour le moment, on peut vous dire que ces billets auraient été mis en circulation à partir d'octobre 2015. Et ensuite, il y a des traces biologiques qui sont en cours d'exploitation, qui ont été relevées sur ces billets.
Les enquêteurs attendent aussi les films des caméras de surveillance de l'hôtel Radisson qui a pris beaucoup de séquences.
Techniquement, il y a des problèmes de séquençage pour avoir le film. Donc, on a des photos, mais nous aurons bientôt le film de l'événement. Je ne peux pas rentrer dans le détail de l'information judiciaire. Ces deux suspects ont été inculpés pour les faits qui ont été commis à l'hôtel Radisson et sont présentement en détention. Ils bénéficient d'une présomption d'innocence. Donc, c'est l'information judiciaire qui est en cours, dont le but est de chercher à savoir si effectivement il y a lieu de les traduire en jugement.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans une interview exclusive à Jacques Aristide au siège des Nations Unies à New York, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, a répondu à plusieurs questions sur le Burundi, la RDC et autres sujets brûlants en Afrique. Dans cet extrait, M. Latsou réagit aux allégations de sévices sexuels portées contre les forces de maintien de la paix en République centrafricaine.
D'abord, je voudrais dire que c'est absolument inadmissible, inacceptable que des casques bleus qui sont là pour défendre les droits de l'homme ou les rétablir se livrent eux-mêmes à des actes qui sont des violations caractérisées de l'honneur de leur mission. Et donc, nous avons une politique extrêmement ferme. Hein, nous suspendons tout de suite les militaires ou les personnels, parce qu'il n'y a pas que des militaires aussi qui sont accusés. Mais il faut bien voir que la charge de l'enquête, elle repose sur les États membres, sur les États contributeurs de troupes. Nous leur avons fixé des paramètres extrêmement stricts en termes de délai, pour réaliser eux-mêmes l'enquête et lancer, s'il y a lieu, les poursuites. Mais il faut vraiment mettre un terme à tous ces actes absolument inacceptables. Nous avons une tendance qui va, je pense, dans la bonne direction, mais il faut vraiment que les États contributeurs de troupes, avec le secrétariat, travaillent pour faire en sorte que ça ne se produise plus. Autrement dit, tolérance zéro, mais il faut viser zéro.
Alors, un deuxième tour de la présidentielle en Centrafrique est prévu le 31 janvier, mais une vingtaine de candidats ont déjà exigé l'arrêt du processus électoral et dénoncé ce qu'ils appellent une mascarade. Est-ce à dire que votre présence en RCA est d'autant plus importante afin que le second tour se déroule dans un climat paisible et qu'il n'y ait pas de conflit post-électoral ?
D'abord, je comprends que cette vingtaine, une quinzaine en fait, de candidats a changé de position. Il n'exprime plus cette demande de casser le processus, en fait. Il est évident que la République centrafricaine doit sortir de cette transition qui n'a que trop duré. Et donc, c'est pour ça que tout au long des mois écoulés, avec l'appui des pays de la médiation régionale, nous avons tout fait pour que les élections puissent effectivement se tenir. Et je crois que le premier tour, après le référendum constitutionnel qui avait précédé d'un mois, s'est passé de manière tout à fait convenable et c'est reconnu par chacun. Il a pu y avoir des erreurs ici ou là, il a pu même y avoir quelques irrégularités limitées, mais je pense que pour ce qui est un événement sans précédent dans la vie de la République centrafricaine, 92% des électeurs potentiels se sont fait enregistrer. Et le total des votants est, je crois, de l'ordre de 79% au premier tour. C'est donc tout à fait remarquable. Et maintenant, donc, il nous faut effectivement tenir à bonne date le second tour du scrutin. Et je le souhaite beaucoup dans des conditions aussi apaisées globalement que l'a été la consultation du premier tour.
Hervé Latsou, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. L'intégralité de cette interview sera diffusée dans Washington Forum ce jeudi 14 janvier.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
En République centrafricaine, la cohésion sociale entre chrétiens et musulmans ne fait plus de doute au PK5, le grand quartier musulman, considéré comme la dernière enclave musulmane de Bangui, la capitale. Depuis le passage du pape François en novembre dernier dans cette localité, tout semble revenir à la normale, nous dit notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Le passage du pape François en novembre dernier, ici au PK5, a laissé une trace indélébile. Comme par miracle, toutes les activités ont repris dans les grands marchés et sur les principales artères. Les différents articles installés le long des avenues, les cris de vendeurs pour attirer la clientèle, les coups de klaxon de taxis et mototaxis redonnent au PK5 son ambiance d'antan. Abdoulaye Dibrine tient une petite cafétéria au marché de Mamadou Mbaïki.
Oui, effectivement, depuis un certain temps, le marché fréquenté, même la route qui mène vers le marché Katin a été ouverte et maintenant tout le monde, musulmans comme chrétiens, il y a une bonne ambiance. Il y a le taxi qui circule, le taxi moto et les magasins ont ouvert aussi. On voit des magasins que les gens sont en train de réfectionner pour les ouvrir bientôt. C'est bien pour les Centrafricains d'écouter le message du pape. Nous constatons que ça va, on a l'espoir et ça va.
Aujourd'hui, la cohésion entre musulmans et non-musulmans dans le PK5, considéré il y a encore quelques mois en arrière comme la dernière enclave musulmane de Bangui, ne fait plus de doute. Les vieux amis se rencontrent et s'enjaillent. Emmanuel Camille s'est rendu pour faire ses courses, mais surtout se régaler à la grillade de Kabri.
Bon, je suis venu faire des achats et puis bon, manger quand même de la bonne michoui de Kabri qu'il y a ici. C'est une très bonne chose. L'atmosphère est décrispée et on pense que ça va aller comme ça jusqu'à que la situation se rétablisse normalement. Je rencontre tout le monde, les gens ils sont joyeux, contents de me revoir surtout et ça c'est important.
Derrière le commissariat du 3e arrondissement, rouvert début janvier 2016, se trouve l'unique centre de santé de PK5 dénommé Mamadou Mbaïki. Ce dispensaire accueille aujourd'hui toute catégorie de malades sans distinction de religion. Auguste travaille au sein du 10 centre.
Effectivement, les activités ont repris normalement au centre centré de Mamadou Mbaïki. Depuis le passage du pape, les activités sont reprises. Toutes les malades, chrétiens et musulmans.
Aujourd'hui, au PK5, le seul pari non encore gagné est la reprise effective des écoles. Frimansi Pila, Bangui, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a inauguré le mois dernier un énorme centre commercial à Abidjan. Il s'agit là d'un autre signe du redressement dans ce pays, considéré comme une locomotive économique en Afrique de l'Ouest. Les précisions de Michel Joseph.
Le centre commercial occupe une superficie de 20 000 m², ce qui en fait incontestablement le plus grand de la sous-région. On y retrouve les premiers magasins régionaux du détaillant français Carrefour et de la restauration rapide américaine Burger King. Il ne représente que les derniers investissements étrangers dans le pays qui se remet de la violence post-électorale qui a fait il y a 5 ans plus de 3 000 morts. Son taux annuel de croissance, une moyenne de 9% ces 4 dernières années, peut faire encore parler de miracle économique. Récemment, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a fait montre d'un grand optimisme en faisant le bilan de 2015. Son directeur général, Emmanuel Essi Esmel.
Voilà, félicitations et merci beaucoup. Voilà.
Monsieur Essi met en exergue la disparition des craintes sur le plan politique.
Tout le monde disait qu'il n'y aura pas d'investissement parce que c'est la période électorale. L'investisseur aussi, il s'inquiète, mais il faut lui prouver que l'espoir existe. Et je crois que le président de la République l'a démontré suffisamment. Il a dit depuis longtemps qu'on aura des élections apaisées. Et c'est ce qui s'est passé.
En novembre, M. Ouattara, un ancien cadre du FMI, a été réélu en promettant que la Côte d'Ivoire sera un pays émergent d'ici à 2020. Sa nation a retrouvé sa position de principal producteur mondial de cacao et le gouvernement investit dans de grands projets d'infrastructures, tout en appliquant des réformes pour améliorer l'environnement des affaires, dont l'adoption d'un nouveau code des investissements. Pour le représentant du FMI en Côte d'Ivoire, Alain Feulé, le redressement économique ivoirien est également dû à un sentiment de soulagement après des années de crise.
Quand vous êtes par terre et vous vous relevez, cela vous donne un élan. Un bon environnement aide aussi. Si vous avez de bonnes politiques pour en profiter, cela ajoute à la performance.
Alain Feulé estime que le prochain défi, c'est le maintien de cet élan. Le FMI prévoit un taux de croissance de 8,6% en Côte d'Ivoire cette année.
Eh bien, une mauvaise nouvelle pour terminer. Le chanteur britannique David Bowie est mort. Bowie, qui souffrait apparemment d'un cancer, est décédé aujourd'hui à l'âge de 69 ans. On l'écoute dans un morceau enregistré en 1965 au studio Sigma à Philadelphia avec Luther Vandross comme arrangeur, Young American.
The violin there, she took his ring, took his babies, it took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken in a finger.
All night.
She was a young American. She finds a slinky back upon because as he passes a poet in my sting. Heaven forbid she's taking the thing. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song. She cries, where are all Papa's heroes gone? She wants a young American.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.